On en est arrivé à la méditation numéro 25. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Personnellement, quand j'ai finalement décidé de croire en Jésus-Christ, à me nourrir de lui, de sa foi, de son espérance, puis de ses paroles, les forces me sont revenues. S'il y a tant d'hommes et de femmes qui tombent littéralement en défaillance sous le poids de la vie de nos jours, c'est parce que le monde est sous-alimenté spirituellement. Au mieux, la plupart des gens pratiquent seulement une religion du dimanche. C'est mieux que rien, c'est sûr, mais c'est vraiment pas suffisant. Comment vous pensez que notre corps vivrait avec seulement un repas par semaine? Notre vie spirituelle a besoin d'être soutenue à tous les jours, autant que notre vie naturelle. Prenons l'habitude de consacrer au moins les premiers 15 minutes de chaque jour à lire un passage des Évangiles. Puis fermons les yeux, puis dites seulement une couple de mots de prière pour remettre notre journée entre les mains de Dieu. Moi, c'est ça que je fais, puis ça me fait beaucoup de bien. Demandons-lui de nous donner la force de faire sa volonté, puis de nous conduire comme Jésus-Christ aimerait que nous nous conduisions. Mettez ça en pratique, juste un petit 10 ou 15 minutes par jour, le temps de prendre simplement un petit repas spirituel, puis je vous garantis qu'après une semaine, votre vie va être transformée. C'est vrai, le bonheur d'une personne dépend entièrement de sa vie spirituelle. Les deux sont étroitement liés. Le soir, en vous couchant, vous allez même avoir hâte de vous lever le matin pour rencontrer Jésus-Christ à travers l'Évangile et la prière. Là, vous allez comprendre que c'était vrai quand Jésus disait « Je suis le pain de vie ». Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain de vie. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Méditation numéro 26. Je vais faire une parenthèse avant de commencer. Pour les prochains messages, on va faire une petite étude de la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 10 et 11. C'est un passage qui traite des principaux péchés graves. Ou péché mortel, si vous préférez. On va commencer par lire le texte au complet, puis on va étudier chacun des péchés qui y sont énumérés. On va voir ce que c'est, puis qu'est-ce que c'est pour. L'apôtre Paul a écrit ceci. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Bon, premièrement, Paul fait pas ici une liste de péchés vraiment, mais plutôt une liste de pécheurs. Une liste de 9 façons de vivre. Il y a une différence entre commettre un péché, puis de faire de ce péché-là une façon de vivre. C'est différent, ça. Il n'y a personne de parfait. Mais on n'est pas obligé de faire une pratique quotidienne et régulière du péché, parce que ça, c'est pas normal. Tomber, trébucher, c'est normal. Mais vivre à terre, c'est pas normal. Bon, Paul parle de 9 façons de vivre, autrement dit, qui va damner une âme. Bon, premièrement, un injuste, c'est quelqu'un qui pratique un ou plusieurs péchés en les regardant comme une façon de vivre tout à fait normale et naturelle. C'est ça qui n'est pas normal. Regardez le péché comme normal. Beaucoup de gens ne voient pas le mal dans leur façon de vivre, simplement parce qu'ils n'ont jamais vraiment reçu une vraie éducation morale. Quand on a vécu 30, 50 ou 70 ans dans un monde où le péché est regardé comme ordinaire et naturel partout autour de nous autres, mais c'est un peu normal de ne pas se sentir pécheur. Dieu sait parfaitement ça. Alors, si vous venez d'apprendre que vous êtes un injuste à travers l'énumération qu'on a faite, mais sachez bien que Dieu n'a pas du tout envie de vous faire des menaces, mais au contraire, de vous faire des avances. Dieu n'a pas envoyé l'Église dans le monde pour menacer le monde, mais pour l'enseigner et lui donner des exemples de vie changée. Dieu a appointé son Église, premièrement, pour être une école morale pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être instruits dans ces choses-là. Jésus a dit à propos des nations, à ses disciples, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Alors, l'Église doit réaliser que malgré toutes les apparences trompeuses qu'il peut y avoir, beaucoup de gens ont soif de connaître Dieu, puis ils ont même le désir dans le cœur. Ils ont le même désir que le roi David dans les psaumes qui a dit « Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture. » Dieu a appointé les chrétiens premièrement pour être des lumières éducatives, des exemples de vie par lesquels les inconvertis vont réaliser eux-mêmes qu'ils sont des pécheurs. L'Église n'est pas là pour condamner le monde, mais pour que le monde réalise qu'il est condamné s'il persiste à pratiquer ce qui est mal. L'Église n'est pas là pour dire aux injustes qu'ils vont en enfer, mais pour que les injustes réalisent eux-mêmes qu'ils y vont. Par les exemples de vie que les gens voient, les exemples, les bons exemples de bonne vie que les gens voient, le pécheur réalise qu'il n'est pas dans un état normal. C'est ça, premièrement, la mission de l'Église. C'est de porter un message, un exemple de sainteté. L'Église de Jésus-Christ ne doit être connue que pour son ministère de réconciliation envers le monde. Envoyer les gens en enfer, c'est pas sa job, mais uniquement celle de Dieu. C'est lui qui va décider ça, qui y va pas au jour de son grand jugement. Mais le travail de l'Église, c'est maintenant d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu qui est offerte à toute âme repentante et de bonne volonté. Je voulais faire cette petite parenthèse-là avant de commencer, parce que c'est très important de réaliser ça, la bonté de Dieu, le désir de Dieu de réconcilier le pécheur avec lui-même, surtout quand on parle de péché, là. Alors, moi, j'ai pas fait ce message-là pour condamner les gens qui m'écoutent, mais au contraire, pour que ceux qui m'écoutent sachent que la grâce leur est offerte de tout cœur de la part de Dieu. Voilà pour l'introduction. Alors, on en est arrivé, comme j'ai dit tantôt, aux méditations numéro 26. La liste de l'apôtre Paul commence par les impudiques. Bon, impudique, ça fait pas seulement référence à la prostitution, mais à tout ce qui est grossier, en partant des plaisanteries salées, de la pornographie, jusqu'à l'exhibitionnisme, puis j'en passe, là. Ceux qui aiment et qui font de l'impudicité une façon normale de vivre n'entreront pas dans le royaume de Dieu, nous dit l'apôtre Paul. Il est impossible de jamais avoir des pensées impures. Moi, ça fait présentement 22 ans là, que j'ai pris l'engagement d'être un disciple de Jésus-Christ au meilleur de mes capacités. Puis ça m'arrive encore bien souvent qu'il me passe des idées par la tête. Il n'y a personne qui peut empêcher le péché de le tenter. Il y a une différence entre être tenté puis souhaiter avoir la chance de le pratiquer ou de pratiquer les suggestions qu'on a. Comprenez-vous la différence? Je sais que l'impureté sexuelle, c'est un problème de taille pour beaucoup de personnes, mais l'important, c'est pas la grosseur du problème d'impureté sexuelle qu'on a. L'important, c'est de pas baisser les bras, puis de continuer à lutter contre lui avec la grâce de Dieu. Repoussons les pensées et les suggestions impures qui essaient de contrôler nos vies. Vivons un jour à la fois, à chaque jour suffit sa peine, a dit Jésus. Tout vrai chrétien a le pouvoir de repousser le péché dans sa vie, peu importe ce que c'est. Tous ceux qui ont réellement reçu l'Esprit-Saint ont le pouvoir de vivre une vie sainte. C'est sûr qu'on peut pas être parfait du jour au lendemain, mais si on a réussi à prendre l'habitude d'obéir à l'Esprit de pureté, à chaque fois qu'une tentation frappe nos yeux, plus les tentations impures vont diminuer d'intensité graduellement, jusqu'au jour où elles vont presque disparaître complètement. Alors, si ce n'est pas déjà fait, faisons notre choix maintenant. Choisissons de servir le péché ou de servir l'Esprit Saint. Un vrai chrétien, ce n'est pas une personne qui croit en Jésus-Christ, mais une personne qui le suit, qui en est le disciple. Personne ne peut suivre Jésus-Christ s'il est encore attaché à ses vieux péchés dans son cœur. Jésus a dit lui-même, « Personne ne peut servir deux maîtres. » Méditation numéro 27. Les idolâtres, maintenant, qu'est-ce que c'est? Premièrement, laissez-moi mettre tout de suite quelque chose au clair. L'idolâtrie, c'est pas d'avoir une croix au mur dans notre maison ou de prier devant une statue de Jésus. J'en ai des croix au mur, moi, chez nous. J'ai pas l'impression de pécher. Je pense que nos frères protestants sont peut-être allés un peu loin avec ça. Les idolâtres sont des gens religieux au lieu d'être pieux. Voilà ce que c'est vraiment. Je peux vous dire tout de suite qu'à ce compte-là, il y a autant d'idolâtres chez les protestants, les catholiques, les évangéliques, les témoins de Jéhovah qu'il y en a partout ailleurs. L'idolâtrie n'est pas un péché purement catholique, comme le pensent les protestants. En fait, dans toutes les dénominations religieuses, sous diverses formes, l'idolâtrie existe. Les témoins de Jéhovah pensent que la seule vraie église chrétienne, c'est eux autres. C'est de l'idolâtrie. Juste là, c'est de l'idolâtrie. Ils idolâtrent leur mouvement, plus que Jésus-Christ. Beaucoup de baptistes idolâtrent leur église locale et l'aiment plus que Jésus-Christ. Beaucoup de pentecôtistes idolâtrent leur pasteur plus que Jésus-Christ. Beaucoup de nos catholiques idolâtrent le pape, la messe et les fêtes religieuses plus que Jésus-Christ. Pas que toutes ces choses-là sont mauvaises en soi, mais tout ce qui prend la place de Jésus-Christ devient de l'idolâtrie. Alors, c'est pas une question d'être catholique ou protestant ou quoi que ce soit. Les protestants sont pas mieux que nous autres, puis on n'est pas mieux qu'eux autres non plus sous ce rapport-là. Tout ce beau monde-là pratique une religion, mais allez pas essayer de redresser leur erreur, parce que vous allez comprendre votre douleur. Les gens idolâtres ont tous ceci en commun, et ils sont extrêmement religieux, mais en même temps, extrêmement rebelles à la voix du Saint-Esprit qui essaie de parler à leur cœur. Très souvent, les gens idolâtres aiment mieux le Jésus en plâtre que le vrai. Ça, c'est vrai. Parce que Jésus en plante, lui, il est muet, puis qu'il ne dérange rien dans leur vie. Ils peuvent pratiquer leur religion rituelle, puis en même temps, ils peuvent se permettre de pratiquer l'hypocrisie dans leur cœur, de parler contre leur prochain tant qu'ils veulent, pratiquer la calomnie, passer leur journée la face d'un fenêtre, essayer de voir ce que les voisins font pour trouver des motifs de commérage. On comprend mieux pourquoi le vrai Jésus vivant leur fait peur. Les personnes idolâtres sont des gens qui ont une piété purement extérieure. Puis encore une fois, on en trouve autant chez les protestants que chez les catholiques, puis chez partout ailleurs. Ils pratiquent toutes sortes de rituels. Ils rendent un culte à toutes sortes de choses. Ils vénèrent toutes sortes de personnes, mais ils refusent de servir Dieu du fond du cœur. Il y a beaucoup d'idolâtres qui tueraient pour leur religion tellement ils l'aiment. Mais si vous leur parlez de la Sainte Bible, ils sont capables de vous arracher les deux yeux. Jésus a dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, vous êtes pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, vous paraissez du bon monde, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Fin de citation. Ce sont des paroles très sévères, j'en conviens, mais si Jésus les a dites, c'est parce qu'on avait peut-être besoin de les entendre pour notre bien. Tout ce que Jésus a dit est nécessaire à notre salut. Méditation numéro 28. Les adultères maintenant. Le péché d'adultère, c'est pas seulement avoir du sexe avec une autre personne que son conjoint, ou avec le conjoint d'une autre personne. Mais ça souligne aussi la bassesse dont on a fait preuve en brisant volontairement les vœux de fidélité qu'on a fait envers notre conjoint quand on l'a marié. Le plus grave dans l'adultère, c'est pas seulement d'avoir brisé la confiance de notre conjoint, que notre conjoint avait nous autres, mais c'est de lui déchirer le cœur en même temps. Ceux qui pratiquent l'adultère pratiquent le métier de briser les cœurs. La Bible dit que l'amour ne fait point de mal au prochain. L'adultère est une blessure très, très profonde et très, très douloureuse dans le cœur du conjoint qui a été victime de la tromperie. C'est précisément ça qui rend le péché d'adultère si grave aux yeux de Dieu. Maintenant, il y en a qui vont dire, « Ah, ben moi, je suis correct, ma femme ne sait pas. Ce qu'elle ne sait pas, ça y fait pas mal, puis si ça y fait pas mal, ben c'est pas un péché. » Bon, un raisonnement comme ça, normalement, ça mériterait même pas de réponse en temps normal. Mais dans le contexte de mon message, je peux en faire un quand même. Une attitude pareille augmente la gravité de l'adultère au lieu de le diminuer. Pourquoi? Parce que non seulement il expose sa conjointe à de profondes blessures, si elle venait à l'apprendre, mais en plus, il montre qu'il s'en fout si ça arrivait. Maintenant, le pire de tout, c'est que beaucoup d'adultères viennent s'asseoir à l'église, viennent communier comme si de rien n'était, n'ayant absolument aucune intention de changer leur vie. Mais venir à l'église, ça efface pas nos péchés. Ça les aggrave, au contraire. Sachons une fois pour toutes que le péché que l'église ne sanctifie pas. Le péché ne se sanctifie jamais. Je veux dire qu'aller à l'église à tous les dimanches, ça nous donne toujours pas le droit de continuer à pratiquer nos péchés favoris. Le péché ne se sanctifie pas, je le répète, il doit être abandonné. Maintenant, s'il y a vraiment plus d'amour entre vous et votre conjoint, que vous avez vraiment tout essayé pour que la première flamme se rallume sans que rien ne fonctionne, eh bien, divorcez donc et remariez-vous donc ailleurs. C'est un péché moins grave de divorcer que de vivre continuellement dans l'adultère et l'hypocrisie, c'est ça que je pense. Mieux vaut commettre un seul péché en divorçant que d'en faire des dizaines en demeurant marié puis en faisant des adultères. Méditation numéro 29. On va parler des efféminés et des infâmes maintenant, parce que pour moi, les deux en font rien qu'un seul en réalité. D'autres traductions de la Bible ont rendu le mot « efféminé » par « coupable de perversion homosexuelle ». Les infâmes ont été traduits par « ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes ». Une autre traduction a rendu « les amants de garçons ». La traduction Tob a inclus les efféminés et les infâmes dans une même catégorie en traduisant simplement par « les pédérastes de tout genre ». Bon, selon mon dictionnaire, la pédératie inclut les pratiques sexuelles entre un homme et un jeune garçon et entre hommes également. Alors, ça inclut pas mal tout. Celle du mot infâme est réputation flétrie, avilissante et qui cause de la répugnance. En d'autres mots, je pense que ces deux termes-là auraient pu être traduits simplement par les efféminés infâmes. Ailleurs, dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, l'apôtre Paul parle de l'homosexualité comme étant une pratique contre nature. Ça, c'est l'opinion, le verdict et l'estimation de Dieu envers l'homosexualité. Peu importe ce que nous autres on en pense, l'estimation de Dieu, c'est ça. L'homosexualité est une pratique contre nature. Mais je veux que ce soit bien clair en partant. Ce que Dieu déteste, c'est l'homosexualité qui est dans l'homme ou dans la femme, et non l'homme qui est homosexuel. Dieu regarde l'homosexualité de la même façon qu'il regarde n'importe quel autre péché, pas mieux puis pas pire que les autres. Hitler était pas homosexuel, qu'on sache. Il a fait bien plus de mal dans le monde avec son orgueil et avec son racisme que tous les homosexuels du monde font présentement. J'ai connu plusieurs homosexuels personnellement. J'ai côtoyé des homosexuels devenus croyants, puis qui avaient cessé d'être actifs de ce côté-là pendant plusieurs mois, plusieurs années. Ces personnes-là sont même devenues des amis très, très proches. J'ai jamais été homosexuel moi-même, ce qui fait qu'il y a certainement des aspects de l'homosexualité que je comprendrai jamais, là. Mais les amis que j'ai eus m'ont permis de comprendre beaucoup mieux ce problème-là, par exemple. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas tellement compliqué. L'homosexualité est pratiquement considérée maintenant comme quelque chose de normal, banal. Il y a même plusieurs dirigeants de différentes églises qui partagent cet avis-là aussi. De l'autre côté, il y a ceux qui regardent tous les homosexuels comme des êtres pervers, vicieux et méchants. Je pense que ces deux positions extrêmes-là sont fausses. Bon, moi, ce que j'ai appris de mes observations, c'est qu'il y a clairement deux sortes d'homosexuels. Premièrement, il y a ceux qui le sont devenus par choix, puis par pur amour de la perversion. Ceux-là sont des gens malhonnêtes de cœur, qui ont littéralement pris plaisir à marcher sur leur pauvre conscience tellement longtemps qu'elle a fini par se taire complètement. Beaucoup de nouveaux homosexuels ne savent pas quoi faire avec leur sentiment de culpabilité. Alors ça, c'est la deuxième catégorie. Alors pour se sentir mieux dans leur peau, ils sont bien obligés de faire quelque chose avec. La plupart du temps, ils choisissent la solution que leur offre la psychologie moderne, c'est-à-dire, t'as rien qu'à te convaincre que Dieu n'existe pas, que le péché n'existe pas, à apprendre à étouffer ta conscience avec ce mensonge-là, jusqu'à temps que ta conscience ferme sa gueule pour de long, puis tu vas finir par te sentir mieux à la longue. Bon, ça c'est la psychologie moderne, grosso modo, là, ce qu'elle conseille à un homosexuel qui est troublé. Si vous désirez vraiment la paix intérieure, par exemple, que vous voulez vraiment l'approbation de Dieu et le salut de votre âme, renoncez de cœur à l'homosexualité. C'est ça le chemin de Dieu. Renoncez de cœur. Pas juste se retenir, mais renoncer de cœur. Ceux qui vous disent que l'homosexualité n'est pas un péché, eh bien, ce sont des faux prophètes. Maintenant, moi, je ne peux pas blâmer quelqu'un de suivre le conseil de la psychologie moderne. Faire semblant que c'est pas péché puis que c'est pas mal. La culpabilité, c'est quelque chose de très souffrant. J'en sais quelque chose qui a même poussé des milliers de personnes au suicide. Alors qu'un homosexuel essaie de justifier ou de banaliser son homosexualité, c'est une réaction de défense tout à fait compréhensible. Souvent, l'homosexuel ne veut pas admettre que l'homosexualité est un péché parce qu'il se sent incapable d'abandonner ce genre de vie-là. Ça lui paraît comme une véritable montagne à déplacer dans sa vie, puis ça le décourage avant même de commencer. Moi, je suis capable de comprendre ça, puis Dieu est capable de comprendre ça. Mais l'apôtre Saint Jean a écrit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » C'est ça la bonne nouvelle. Voilà la solution de Dieu à propos de la culpabilité. C'est pas de la nier, mais c'est de la porter devant Dieu. Dieu n'est pas contre les homosexuels. Dieu ne demande rien de mieux que de se placer de leur côté pour les aider à combattre ce penchant-là dans leur vie. Dieu fait pas seulement de demander d'être saint, mes amis, mais ce qu'il désire le plus au monde, c'est de se placer à côté de nous autres pour nous aider à le devenir. Ça, Dieu prend plaisir à faire ça. C'est ça qu'il veut. Ceux qui vous présentent un Dieu qui ne fait que condamner les péchés des hommes vous présentent une image de Dieu qui est fausse. Le vrai Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, est un Dieu de miséricorde, un Dieu de consolation et un Dieu de grâce. Il est un Dieu d'aide et un Dieu d'assistance, qu'on ne se trompe pas là-dessus. Alors aux homosexuels, je dis, prenez courage. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, a dit Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire que si vous êtes un homosexuel repentant, Dieu veut vous prendre. Si vous voulez faire des efforts, si vous êtes patient dans votre épreuve, les tentations vont diminuer de plus en plus, jusqu'à disparaître pour de très très longues périodes. Souvenez-vous que les tentations ne durent jamais, toujours. Efforcez-vous de mener une vie pure, un jour à la fois. Puis un beau jour, vous allez même finir par croire que vous n'avez jamais été vraiment homosexuel, tellement les tentations vont avoir disparu dans votre vie. Méditation numéro 30. Notre passage initial disait également que les voleurs n'hériteraient pas le royaume de Dieu. Mais laissez-moi vous raconter une anecdote. Un jour, il y a un de mes frères qui était sorti de chez eux, travaillait après ses fleurs, puis il voit un type arriver, puis aller dans l'auto du voisin. Il regarde, puis il lui dit, « Qu'est-ce que tu fais là? » Le voleur le regarde, puis il dit, « Toi, regarde ailleurs, puis mêle toutes tes affaires. » Puis le type est parti avec l'auto. Ben, le pauvre voisin venait de se faire voler son auto en plein jour, là. Le voleur ne songe pas une seconde à la peine, à la déception, puis à la perte qu'il cause à ceux qui le volent. Il est insensible à ce que les autres peuvent ressentir. Le voleur pense simplement à remplir son portefeuille. L'insensibilité de cœur, puis l'égoïsme du voleur sont des péchés très graves devant Dieu. Alors ceux qui pratiquent le métier de voleur, entre guillemets, n'entreront pas dans le royaume de Dieu. En fait, tous les péchés de cette liste-là peuvent se résumer par le mépris du prochain. C'est ça le péché en réalité. La pratique de l'amour du prochain est le plus grand signe de salut. Puis la pratique du mépris du prochain est le plus grand signe de la perdition de quelqu'un. Le contraire d'aimer son prochain, c'est de le mépriser. C'est-à-dire mépriser son opinion, mépriser ses sentiments, mépriser ses droits, mépriser sa dignité, mépriser ses besoins ou mépriser sa liberté. En bref, le mépriser dans tous les domaines. Maintenant, plusieurs personnes sont devenues voleurs à cause d'un manque d'amour. Ça, Dieu est capable de comprendre ça aussi. Vous allez peut-être dire, mais c'est quoi le rapport qu'il peut bien y avoir entre les deux, entre être voleur et entre avoir manqué d'amour? Il y en a un, puis il y en a un direct à part de ça. Le fait qu'un jeune n'ait pas eu de parents ou qu'il ait été élevé à coups de pied au derrière, comme on dit, peut concourir énormément à avoir fait de lui un voleur. À chaque coup de pied au derrière, c'est comme si on lui enseignait que les sentiments puis les droits d'un individu avaient aucune importance. Alors, comme il a été piétiné lui-même tant de fois, il a été obligé de s'endurcir pour survivre. Comme il n'a jamais eu droit au respect de sa personne et de ses droits, il se demande maintenant pourquoi il respecterait ceux des autres. Ayant jamais été traité comme un véritable être humain, il voit aucun mal à traiter maintenant les autres comme des simples vaches à lait, juste bonnes à être traites. Comprenez-vous? On se souvient de Zachée le publicain. Zachée était très petit de taille. C'était peut-être même un nain. Puis je sais par expérience que quand on est maltraité ou méprisé à cause d'une différence qu'on a avec les autres, ben c'est très très facile de développer de la haine envers le monde entier, puis de développer le désir de vengeance. Alors devenir voleur, c'est très très souvent la façon de vivre que choisissent les mal-aimés de notre monde. Zachée est un voleur détesté de tout le monde, mais quand il a rencontré Jésus-Christ, qui lui a demandé à demeurer chez lui puis à manger chez lui, là, Zachée s'est senti compris, accepté, puis aimé peut-être pour la première fois de sa vie. Le fait de découvrir que Dieu lui-même ne le rejetait pas, même après tout ce qu'il avait fait, mais qu'il l'aimait vraiment, a eu effet d'anéantir la raison d'être même de son besoin de voler les autres. Ayant goûté à l'amour de Dieu, Zachée avait maintenant plus aucun besoin tordu de rendre la haine. La guérison de son propre cœur l'a immédiatement amené à désirer réparer les torts commis envers les autres. Il est écrit dans l'Évangile de Luc, chapitre 19, « Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelque chose, de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Maintenant, pour devenir croyant, il faut premièrement devenir conscient de l'amour de Dieu. Puis en devenant conscient de l'amour de Dieu, on découvre automatiquement l'amour et le respect du prochain. Puis on n'éprouve plus le besoin de les voler. Méditation numéro 31. Les cupides maintenant. Quelqu'un de cupide, c'est pas seulement quelqu'un dont le cœur est attaché à l'argent, mais surtout quelqu'un qui est prêt à faire presque n'importe quoi pour en faire. Judas était un homme cupide. Judas a été jusqu'à vendre Jésus pour se faire 30 pièces. Il a réalisé trop tard que c'était sa propre âme qui venait de vendre 30$. Une autre traduction a rendu le mot cupide par convoiteur. Alors être cupide, c'est aussi quelqu'un de convoiteur, quelqu'un d'envieux et de jaloux des possessions des autres. Jaloux de leur argent, jaloux de leur chèque, jaloux de leur auto, jaloux de leur maison, jaloux de tout ce que vous voulez. J'ai déjà rencontré quelqu'un qui était jaloux de ma montre bracelet. Ma pauvre montre, elle valait pourtant même pas 50$. Alors, la cupidité, c'est loin d'être un péché de riche, vous savez. Des fois, les pauvres sont les victimes des gens riches. Oui, des gens riches qui abusent d'eux autres. D'autres fois, ce sont les gens riches qui sont les victimes de la jalousie des gens pauvres. Il y a des pauvres qui sont capables des pires bassesses pour se faire un peu d'argent facile. Alors, le mauvais riche puis le mauvais pauvre, ben, il n'y en a pas un pour acheter l'autre, si vous voulez mon avis. C'est pas écrit nulle part dans la Bible que c'est un péché d'être riche. C'est pas écrit non plus à nulle part qu'un pauvre a automatiquement la faveur de Dieu non plus. Quelqu'un qui est riche, honnête, mais ça vaut mieux qu'un pauvre qui est envieux. Un riche au cœur généreux est 100 fois plus sain qu'un pauvre au cœur rempli de jalousie, d'envie et de cupidité. Les gens cupides sont jamais contents de ce qu'ils ont. Ils passent leur temps à regarder d'un mauvais œil à peu près tout ce que les autres possèdent. Ils grincent des dents intérieurement quand ils rencontrent quelqu'un qui a quelque chose qu'ils ont beau. Quand ils empruntent de l'argent, ils prennent 10 fois plus de temps à le remettre qu'ils avaient promis de le faire. Tout ça parce qu'ils sont jaloux, encore une fois, de leur bien, puis qu'ils veulent les faire souffrir un peu à cause de ça. Ils veulent les punir d'être mieux nantis qu'eux autres. Puis quand on leur rappelle qu'ils nous doivent une certaine somme d'argent, ils se fâchent, puis ils viennent vous le flanquer à la figure la plupart du temps. Alors, la cupidité est très souvent causée par la jalousie. Non, les cupides ou les envieux des autres, si vous préférez, n'hériteront pas le royaume de Dieu, ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu, parce que Dieu en veut pas au ciel des gens comme ça. C'est une chose détestable devant Dieu. C'est une façon de vivre dont l'homme doit absolument se repentir et se détourner pour hériter de la faveur et du royaume de Dieu. Maintenant, peut-être que vous vous dites, « Ah, je ne sais pas comment je vais faire pour changer, j'ai toujours vécu comme ça. » Laissez-moi vous rappeler le dernier verset de notre passage. « C'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés ou rendus justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Bon, ça veut dire qu'en devenant disciple de Jésus-Christ, l'Esprit-Saint va lentement entrer en vous pour vous inspirer une nouvelle et sainte façon de vivre. Puis si vous êtes docile à l'influence de l'Esprit de Jésus-Christ, vous allez ressentir du dédain à l'égard de votre péché. Puis vous allez découvrir en vous des nouvelles affections à l'égard du bien. Moi, je ne crois pas à ça, quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, puis que ça change absolument rien dans sa vie. Recevoir le Saint-Esprit nous rend plus saints. Ou alors on n'a rien reçu du tout. Les marques d'un vrai croyant, c'est son désir ardent de ressembler à Jésus-Christ, puis les efforts honnêtes qu'il y met pour y arriver. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le même esprit de Jésus que Jésus-Christ. Le croyant qui prend l'habitude d'obéir à la grâce de Dieu va forcément changer. Alors prenons courage. Hébreux 13, versets 5 et 6 dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. » Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. » La vraie satisfaction, ce n'est pas d'obtenir tout ce qu'on veut, mais d'adopter une attitude de contentement vis-à-vis ce qu'on a, puis d'en être reconnaissant envers Dieu. C'est Richard D. Hahn qui a écrit, « Quand nous savons que nous vivons selon la volonté de Dieu et que nous sommes confiants qu'il comblera nos besoins, alors notre soif de posséder ce qui appartient à notre prochain disparaît. Son sort ne nous attire simplement plus. » Méditation numéro 32. Dans notre énumération des péchés qui capables de damner une âme, de péché mortel, on en est arrivé à celui d'ivrognerie. La Bible n'interdit pas l'utilisation de breuvages alcoolisés, à condition que ce soit avec une bonne modération. Par contre, Dieu condamne clairement l'abus. On sait tous ce que l'alcool peut faire des hommes. Il y a un grand-père qui m'a déjà dit que de son temps, le curé de sa paroisse disait que tant que tu n'avais pas de perte de mémoire quand tu buvais, c'était pas un péché. Mais laissez-moi vous dire que quand on est rendu à avoir des trous de mémoire, là, de ce qu'on a fait la veille, il y a belle urette qu'on a dépassé le stade de la modération, puis qu'on est entré dans l'ivrognerie, c'est moi qui vous le dis. J'étais bon là-dedans, je sais ce que c'est. L'alcool entraîne un relâchement moral. Voilà ce qui est de mal dans l'alcool. C'est pas de se sentir étourdi qui est mal. C'est que ça entraîne un relâchement moral, puis le relâchement moral entraîne d'autres choses. L'alcool dispose l'homme à négliger ses devoirs envers sa famille, envers Dieu, envers autrui, puis envers lui-même aussi. Autrement dit, aussitôt que tu sens que tu commences à te foutre des gens autour de toi, à te foutre de ce que tu leur dis, à ce qui peut t'arriver, à te foutre de ce que tu fais, puis à te foutre de pécher ou non pendant que tu es sous l'effet de l'alcool, mais tu as déjà dépassé la dose depuis un bon bout de temps, puis ta consommation est réellement devenue un péché d'ivrognerie, et pas seulement une consommation. Voyez-vous, dans l'alcool, ce qui est de mal, c'est pas de se sentir étourdi, comme j'ai dit tantôt, c'est pas péché de se sentir un peu étourdi. C'est rien que le fun. Le mal, c'est quand tu commences à perdre tes qualités morales, ton sens des responsabilités, puis tes capacités à les remplir surtout. L'abus d'alcool nous fait pécher de mille et une façons. Il y en a qui deviennent grossiers, impudiques, violents, ou ils se mettent à calomnier, puis à même à se moquer de Dieu, puis à blasphémer. On voit dans la Sainte Bible des exemples d'hommes qui ont fait des choses abominables sous l'effet de la boisson. Puis ce qui est remarquable, c'est que Dieu les a quand même toujours tenus pour responsables pour tout ce qu'ils ont fait, pour tout ce qu'ils avaient fait, ou tout ce qu'ils avaient dit quand ils étaient sous l'influence de l'alcool. On pense des fois que Dieu tient pas compte des bêtises qu'on fait ou des péchés qu'on commet sous l'effet de la boisson. Je m'excuse, mais c'est plutôt le contraire. Un homme est toujours entièrement responsable devant Dieu de ce qu'il dit ou de ce qu'il fait. Les péchés commis sous l'effet de l'alcool sont tout aussi coupables que les autres. Maintenant, j'aimerais souligner quelque chose de vraiment important. C'est qu'il y a une différence énorme entre un ivrogne et un alcoolique aux yeux de Dieu. C'est vrai que l'ivrogne peut devenir alcoolique, puis que l'alcoolique peut devenir ivrogne, mais pour le bénéfice de la clarté, là, je vais les séparer un petit peu pour permettre de mieux comprendre leur différence. Bon. Quand l'ivrogne réalise que la boisson lui a fait commettre des folies, il en rit. Tandis que l'alcoolique, il en pleure, lui. Un ivrogne, c'est ni plus ni moins qu'un gros buveur, qui pourrait parfaitement arrêter de boire avec un peu d'effort, mais qui continue pour le pur plaisir de la chose, parce qu'il aime ce genre de vie-là, puis les péchés qui y sont rattachés. Un ivrogne, c'est un abuseur d'alcool, qui n'est pas repentant, qui ne regrette pas. L'alcoolique est très souvent quelqu'un qui voudrait arrêter de consommer, mais qui en est incapable. C'est pour ça que l'alcoolique est regardé comme une maladie par le mouvement des alcooliques anonymes, et je suis bien d'accord avec ça. C'est un de leurs livres, j'ai lu un de leurs livres où il est écrit ceci, bien intéressant. « Personne ne sait exactement pourquoi certaines personnes deviennent alcooliques alors que d'autres, non. Ce n'est pas notre faute. Nous n'avons pas voulu devenir alcooliques. Nous n'avons pas couru après. Après tout, nous n'avons pas souffert d'alcoolisme pour le plaisir de la chose. Nous n'avons pas entrepris délibérément, malicieusement, de faire ce dont nous aurions à rougir par la suite. Tout cela s'est fait à l'encontre de notre bon jugement et de nos inclinations, simplement parce que nous étions réellement malades sans le savoir. » Cette citation-là est tirée du livre « Vivre sans alcool », la page 14 et 15. L'alcoolique n'est pas nécessairement un gros buveur. L'alcoolique ne pratique souvent aucun des péchés que l'ivrogne pratique. Il peut même détester leur compagnie. Hein? L'alcoolique ne se tient pas nécessairement avec des ivrognes. L'ivrogne, lui, il aime la brigne, comme on dit. C'est un fêtard qui aime s'associer à d'autres personnes comme lui. L'alcoolique va très souvent, lui, boire tout seul dans le fond de sa maison pour engourdir la douleur de certaines vieilles blessures intérieures dont il sait simplement pas comment guérir. Il y en a qui ont commencé à boire parce qu'ils ont vécu des choses très, très difficiles dans leur vie, puis qui en sont devenus profondément malheureux. Puis c'est pas un péché d'être malheureux, mes amis. Dieu est parfaitement capable de comprendre ça, qu'une personne peut boire pour oublier son passé ou pour apaiser sa douleur. Maintenant, j'ai une bonne chose à dire à l'alcoolique qui souffre encore. Dieu ne rejette pas les alcooliques. Il veut leur venir en aide. Il les aime. Il comprend la souffrance. Rappelez-vous les paroles du Seigneur à propos de son ministère. Il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. » Et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça se trouvait dans l'Évangile de Luc au chapitre 4. Alors l'alcoolique rentre certainement dans l'une de ces catégories-là. Il est impossible pour un alcoolique d'arrêter de boire sans la grâce de Dieu. Puis la grâce de Dieu, ben vous allez la trouver quand vous allez vous appuyer sur elle de tout votre cœur. Je le sais, j'en suis un alcoolique. Puis par la grâce de Dieu, je ne bois plus aujourd'hui. Je suis sobre, puis je suis heureux. Soyez déterminés à cesser de boire, puis prenez le temps qu'il vous faudra. J'ai pas réussi ça du premier coup. J'ai fait un long cheminement. Dieu comprend la faiblesse, puis il va toujours vous venir en aide si vous abandonnez pas, si vous vous relevez. Les rechutes font partie du chemin vers la sobriété. La Bible dit, l'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Méditation numéro 33 maintenant. Notre passage biblique du début nous dit également que les outrageux n'hériteront pas le royaume de Dieu. Un outrageux, c'est quelqu'un qui fait des outrages, c'est-à-dire qui dit des paroles insultantes et humiliantes aux autres, qui en a l'habitude, qui pratique ça régulièrement, qui vit comme ça, qui aime ça. Il y a des gens qui aiment ça être grossiers, de faire des farces plates sur les autres, puis les humilier publiquement. Vous savez, avec notre langue, on peut faire beaucoup de mal à quelqu'un. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui manquent énormément de respect à leurs vieux parents. Il y en a qui traitent leur mère de vieille folle, puis j'en passe, hein, j'ai entendu bien pire que ça. Il y a des parents aussi qui disent toutes sortes de choses méchantes à leurs jeunes enfants, qui les traitent de bons à rien, ce qui écrase pratiquement leur caractère, avant qu'ils aient eu le temps de s'apercevoir qu'il y en avait un. Beaucoup d'enfants grandissent tout croche, puis sont totalement perturbés dans plusieurs domaines de leur vie, à cause qu'un de leurs parents, ou d'autres personnes, les ont littéralement détruits par des paroles méchantes. On trouve des outrageux également parmi ceux qui occupent des postes plus ou moins élevés dans le monde. Les gens en lieu d'autorité se permettent souvent, par orgueil, de traiter ceux qui sont en dessous d'eux autres comme des moins que rien. Des hommes d'église même peuvent être outrageux par leur façon de prêcher. Il y a toujours le danger qu'ils se mettent à se croire meilleurs que les gens à qui ils prêchent, puis à tenir des propos qui vont humilier les gens au lieu de les édifier. Dieu, lui, est jamais outrageux, méchant ou blessant en parole. Jésus-Christ n'a jamais eu à s'excuser envers personne, parce qu'il n'a jamais blessé personne en parole. Dieu déteste l'orgueil qui pousse souvent les gens à être outrageux. Soyez persuadés qu'il n'y aura personne d'outrageux qui va entrer dans le royaume de Dieu, peu importe qu'il soit assis au beau milieu de l'église ou dans un bar. En écoutant ce message-là, si votre cœur vous accuse d'être un outrageux, je vous exhorte à vous en repentir profondément, parce que même si vous faites une pas pire vie dans la plupart des autres domaines de votre vie, réalisez que la pratique habituelle de ce seul péché vous exclut automatiquement du royaume de Dieu. Pratiquer les outrages humiliants est un péché mortel. Je vous exhorte non seulement à croire en Jésus-Christ, ce que vous faites sûrement déjà, mais aussi à accepter les avertissements de son Saint-Esprit. Ce qu'on fait avec notre langue peut avoir des conséquences extrêmement graves dans la vie des personnes qui nous entourent. L'apôtre Jacques a écrit ceci. La langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Elle est pleine d'un venin mortel. Je suis surpris de voir combien de gens, même dans l'Église, ne savent pas qu'une méchante utilisation de leur langue est suffisante pour les damner éternellement. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est notre Seigneur. Jésus a clairement dit, « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Évangile selon Matthieu, chapitre 12. Bon, une langue outrageuse est forcément rattachée à un cœur mauvais et qui n'appartient pas vraiment à Jésus-Christ. On peut faire du bien avec nos amis, avec nos mains, c'est-à-dire, puis se damner avec notre langue. Soyons conscients de ça. La repentance, la componction et la pénitence constituent donc la seule planche de salut de la langue sale et outrageuse. Méditation numéro 34. Parlons des ravisseurs maintenant. Un ravisseur, c'est un escroc, un extorsionneur, si vous préférez. Les ravisseurs sont des gens qui tirent profit des autres en utilisant le mensonge, le faux témoignage, les pots de vin, puis les magouilles fiscales ou politiques pour exploiter les autres. Dieu a en horreur les gens qui profitent des autres, que ce soit pour n'importe quelle raison. Les menteurs, les exploiteurs, puis les manipulateurs, les ravisseurs, n'entreront pas dans le royaume de Dieu, même s'ils vont à l'église à tous les dimanches. C'est un péché mortel. Et aller à l'église n'efface pas un péché mortel. Un ravisseur, c'est quelqu'un qui soutire l'argent aux autres en employant la ruse, la fausse représentation, puis la tromperie. Ce sont des gens habiles pour nous monter de beaux bateaux qui nous font des belles promesses uniquement pour nous vendre quelque chose, puis qui se souviennent plus de nous autres quand on a besoin de services par la suite. Bon, il y a à peu près 30 ans de ça, un de mes frères s'est fait escroquer 3 000 $ environ par une supposée compagnie de produits de beauté. La compagnie de beauté s'appelait Eden, en passant, pour vous mettre en garde si ça existe encore. Quand mon frère a été convaincu du sérieux de cette compagnie-là, puis qu'il a fait le chèque de 3 000 $ pour investir dedans, les personnes en question se sont évaporées dans l'air, puis ils ont investi l'argent dans leur propre portefeuille, eux autres. Bon, j'ai connu aussi un homme qui était curateur public pour le gouvernement. Il n'y a personne qui échappe à ça. Le curateur public, c'est un homme que sa job, c'est de vérifier tous les rapports financiers annuels des gens qui s'occupent de gérer les biens d'un membre de leur famille, par exemple, qui est devenu incapable de le faire à cause de la maladie. Il vérifie, puis il contrôle s'il n'y a pas eu de magouille pour leur soutirer de l'argent illégalement. Et bien, cet homme-là m'a dit qu'il y avait eu quelqu'un qui était arrivé chez son vieux père, puis qui lui avait vendu un voyage autour du monde pour 23 000 $. Pas besoin de vous dire que le pauvre vieux monsieur n'a jamais vu le beau bateau qui était supposé l'amener en croisière. Alors les ravisseurs peuvent être très, très habiles. Pas besoin de faire le métier d'escroc professionnel pour être un ravisseur non plus, aux yeux de Dieu. Certains employeurs sont ravisseurs à l'égard de leurs employés. Ils leur font faire le travail de deux hommes. Puis quand ils voient qu'ils ont le gros bout, ben ils en profitent pour leur donner le travail de trois hommes s'ils peuvent. Ils leur pressent le citron jusqu'à la limite du possible. Les ravisseurs se servent des gens, puis les jettent comme des vieux Kleenex quand ils n'en ont plus besoin, quand ils ne sont plus capables. Il y a pareillement des enfants qui profitent de leurs vieux parents, leur soutirant de l'argent, par la manipulation, par toutes sortes d'autres façons. La Sainte Bible dit que « Celui qui vole son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. » C'est-à-dire que Dieu leur réserve très souvent une mort prématurée à ces gens-là. Ah, puis si c'était juste ça, mais c'est la seconde mort qui les attend après la première mort, c'est-à-dire la mort spirituelle et définitive, ce qu'on appelle l'enfer. Une fois, j'ai essayé de devenir vendeur d'aspirateurs. Là, je ne dirais pas pour quelle compagnie, évidemment, même si la langue me pique presque intolérablement pour le dire. En tout cas, j'étais avec celui qui m'entraînait, puis là, il me racontait comment il avait réussi à vendre un balai électrique neuf à une dame en lui faisant croire que le sien était fini, puis que c'était pas réparable. Il me racontait ça en riant, puis il était tout fier de lui d'avoir réussi à se faire une coupe de pièces sur son dos, cette pauvre madame-là. Une autre fois, le même type a vendu une balayeuse neuve à une autre dame parce qu'il lui avait fait croire que le moteur de sa balayeuse était brûlé. Ça fait qu'il lui a racheté sa balayeuse défectueuse pour une bouchée de pain. Il l'a réparé, puis il l'a revendu quelques centaines de dollars. Puis il en a revendu une neuve en plus à la dame, là. Croyez-moi sur parole, étant chrétien, là, j'avais un drôle de problème de conscience avec mon nouveau métier de vendeur, je peux vous dire ça. Et je peux vous dire aussi que j'ai simplement sacré cela après une couple de jours. J'étais pas capable. J'étais trop en conflit avec... J'étais pas capable d'être comme ça. Je veux pas dire que tous les vendeurs d'aspirateurs sont malhonnêtes de même, mais celui avec qui je travaillais, là, il m'avait fait comprendre que pour gagner ta vie, il fallait que tu fasses ça. Mais moi, je n'ai simplement pas accepté ça. Peut-être qu'on serait un peu moins riche si on était plus honnête. Mais notre pauvre conscience se porterait beaucoup mieux, par exemple. J'ai connu un épicier, moi, près de chez nous, qui était un ravisseur. Quand j'allais là, il agissait avec moi comme si j'étais l'adjoint du maire. Hein. Il m'offrait des cigarettes, il parlait avec moi avec un sourire fendu jusqu'aux oreilles. Mais quand je suis arrivé chez nous, je me suis rendu compte que l'étiquette de prix qu'il y avait sur le paquet de viande que je venais d'acheter était collée sur la date d'expiration, puis ça donne justement par hasard qu'elle était passée, la date. Vous savez, c'est pas parce que tout le monde le fait que cette chose-là cesse d'être un péché, mes amis. Abuser des gens, c'est détestable aux yeux de Dieu, puis ça va toujours l'être. Beaucoup de vendeurs simulent l'amitié, simulent de s'intéresser à ton travail, à tes enfants, à ta santé, juste pour te vendre quelque chose. C'est une fausse amitié, c'est une façon de manipuler et de profiter des gens. Alors, trompons-nous pas, mes amis, peu importe qui nous sommes, que ce soit dans l'Église ou hors de l'Église, qu'on se nomme chrétien ou non, les ravisseurs, quels qu'ils soient, n'hériteront pas le royaume de Dieu, a dit le Seigneur. C'est un péché mortel. Dieu ne laissera pas entrer un seul ravisseur dans son paradis. La contrition et la pénitence est absolument nécessaire au salut de tout pécheur. Ce n'est pas une option. En conclusion, si vous sentez dans votre cœur que vous n'êtes pas au clair au point de vue de l'argent dans votre vie, il vaut mieux prendre la chose sérieusement. Si vous voulez profiter de quelqu'un, profitez donc de Jésus-Christ. Puis si vous voulez profiter de quelque chose, profitez donc de la grâce que Dieu vous offre à travers lui. Peu importe combien creux vous avez pu vous rendre à la prédique du ravissement, vous pouvez, par la grâce de Dieu, devenir un véritable modèle d'honnêteté pour les autres. L'Église a désespérément besoin de modèles de vertu dans ce domaine-là. Bon, c'est tout pour ce passage de 1 Corinthiens chapitre 6. Je pense qu'on a une bonne idée des choses que Dieu déteste. On va voir maintenant la conclusion de l'apôtre Paul à tout ça. Disons que ça constitue la méditation numéro 35. On va relire le passage de 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 et 10 du début. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Bon, je répète que ce passage-là n'est pas seulement une liste de péchés, mais une liste de pécheurs, une liste de façons de vivre. Dieu condamne pas seulement les péchés, mais aussi les pécheurs qui pratiquent ces péchés-là volontairement. Dieu va condamner les pécheurs sur la base de ce qu'ils font et de ce qu'ils sont. Mais Dieu n'est pas idiot. Dieu sait bien lui-même que pour changer de façon de vivre extérieure, l'homme a besoin, premièrement, d'un changement intérieur dans son cœur. Il a besoin d'aide. Dieu est très conscient que l'homme a besoin d'aide. Puis il a pourvu à ça. Suivre Jésus-Christ, ça nécessite une grâce vraiment spéciale. C'est pour ça qu'après avoir énuméré ces péchés-là, Paul ajoute, « Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » On n'est pas seul là-dedans. Dieu veut nous aider. Dieu nous aide concrètement. Quand on répond à l'appel de Dieu, quand on se repent vraiment de nos péchés, puis quand on se jette aux pieds de Jésus-Christ pour être lavé et transformé, bien, l'Esprit de Dieu vient faire une œuvre en nous autres. Il vient pour laver notre passé, il vient aussi nous sanctifier de nos péchés présents, puis nous justifier tout de suite de nos péchés futurs qu'on va avoir faits par inadvertance. Comme on peut voir, Dieu est loin d'être cheap en grâce. Trois pour le prix d'une. Alors qu'il n'est même pas obligé de nous en donner une seule, il nous en donne trois gratuitement. Celle qui couvre le passé, celle qui couvre notre présent, puis celle qui va couvrir notre futur, qui va couvrir nos chutes et nos rechutes. L'apôtre Saint Jean a écrit ceci dans sa première épître, puis ça va être la dernière parole que je vais vous dire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, il a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste.